ensuite. Donc, on poursuit notre parcours du temps avec cette fois un passage de Coëlette. Alors, Coëlette, des fois dans vos Bibles, c'est rendu par Ecclésiaste, parce qu'en hébreu, Kaal, c'est l'assemblée. Et donc, Ecclésia, c'est ceux qui sont appelés, qui forment l'assemblée. Donc, la traduction est juste Ecclésiaste. Coëlette, c'est en fait une translittération. C'est comme cela qu'il s'appelle en hébreu. Je vous ai mis sur la feuille que vous avez le texte hébreu à gauche et à droite la traduction de Louis II, dont il faudra se méfier un peu. En tous les cas, on lui apportera de nombreuses précisions sur le plan de traduction, mais rien de grave. Je veux dire par là que l'Ecclésiaste, c'est une langue quand même assez sophistiquée. C'est dans les cinq rouleaux poétiques, ça donne plus de difficultés aux traducteurs, surtout aux traducteurs en herbe. Louis II n'en était pas un, mais il était certainement marqué par un peu, disons, d'idéologie, et on verra qu'il y a des partis pris idéologiques qui méritent d'être un peu battus en brèche. Je vous propose quand même de partir de cette traduction de Louis II, si quelqu'un pouvait se charger des versets 1 à 8, et puis quelqu'un d'autre des versets 9 à 15, ce qui correspond en fait à la paracha.
Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Si quelqu'un peut prendre la suite. Verset 9.
Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé.
Bon, on commence par les sensations, ce que cela nous inspire, comment on réagit par rapport à ce texte.
Au départ, c'est casse-pied, parce que ça fait penser à une litanie.
Oui.
Et ça, il rabâche, dans la forme, c'est un peu
répétitif.
Voilà,
est-ce que ce côté répétitif induit quelque chose sur notre compréhension du temps, tel qu'on imagine que Coëlette l'exprime?
Ben oui, que le temps se répète.
Et puis qu'il faut pas
la continuation du temps.
Qu'il ne faut pas faire une fixation sur une idée, parce qu'après, il viendra une autre idée.
Oui, ça relativise un petit peu chaque moment.
Il faut un moment.
Et une succession.
Ça ne durera pas. Oui.
Un peu comme après la pluie, le beau temps, en fait.
Oui, mais c'est bien de penser ça.
Je trouve que ça. C'est un peu c'est vraiment la réalité.
C'est vraiment la réalité.
Dans la vie.
Et alors cette réalité, c'est quoi? C'est une réalité qu'on subit finalement? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent de façon un peu inexorable et on ne peut
On n'est pas obligé
que...
de la subir. On peut toujours agir, mais c'est pas...
Alors ça, c'est votre conviction. Mais oui. Par rapport à ce que le texte vous donne à penser?
Ah oui, le texte dit à penser, il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire, c'est fichu.
Voilà.
comme ça, là, en première intention, mais j'entends bien que vous avez scruté le texte et que vous ne vous laissez pas surprendre l'été étant venu.
Au second rapport, si on prend, par exemple, comme j'ai fait, la traduction de l'acte, un temps pour chaque plutôt que un temps pour tout,
oui.
Ben à ce moment-là, ça donne une valeur à chaque temps.
Oui.
Et à ce moment-là, comme on nous invite à le faire vers le verset 13 et 14, si on met le paquet dans le temps qu'on vit, il y a des séquences, mais en même temps, c'est formidable à vivre.
D'accord. Donc il y a une autre façon d'habiter chaque moment que suggère ce texte. Alors, il va effectivement y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va même voir que c'est encore plus grave que cela. Plus grave au sens du positif, hein, je veux dire.
Et par rapport à la première
partie
de la vie, ça fait un peu, pour moi, de penser un peu à un espace dans lequel se joue quelque chose entre deux opposés.
Oui, une sorte de duel.
Oui, pas forcément, mais il se passe quelque chose entre les deux.
D'accord.
Des
couples antithétiques. Donc il y a des oppositions en tous les cas. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du texte. On va aussi feuilleter un petit peu le texte hébreu pour y découvrir quelques subtilités qui donnent vraiment du sens au texte. Je vous ai surligné en gris les mots qui sont en rapport avec le temps. Et c'est important parce que déjà, dans le premier verset, vous voyez qu'il y a deux mots qui sont grisés, qui sont deux mots différents en hébreu, mais en français, c'est le même mot. Il y a deux mots hébreux qui sont tous les deux traduits par « temps ». Il y a le premier mot qui est « zeman » et le deuxième mot qui est « et ». En fait, j'aurais dû mettre juste les deux dernières lettres, ça, celui de droite à gauche. Donc la première, qui ressemble un peu à un bâton, ne fait pas partie du mot, c'est la conjonction de coordination. Vous le voyez plus bas, de toute façon, je l'avais au verset 2, c'est le même. Donc, vous voyez, première difficulté de la traduction, il y a deux mots hébreux qui sont rendus par le même. Et alors, c'est là le premier enseignement, c'est que la première traduction, effectivement, qui déjà dans la TOB souffre d'une petite modification, ce n'est pas un temps pour tout, mais c'est un temps pour chaque chose. On va voir que ça va plus loin que cela. Alors, un peu de sémantique. Le premier temps, « zeman », c'est le temps fixé. C'est le temps fixé. Dans le grec de la Septante, c'est traduit par « chronos ». Et « chronos », c'est le temps auquel on n'échappe pas, en quelque sorte. Hein, c'est le temps qui dévore la ligne de temps, en quelque sorte. C'est comme les petits Pac-Man qui avancent et qui grignotent tout sur le passage. C'est le temps du délai consenti. C'est-à-dire que, par exemple, le cycle lunaire, ça relève de ce type de temps. Hein, tous les 28 jours, la Lune est à nouveau pleine ou à son premier quartier, comme vous voulez. Dans un rythme solaire, tous les 365,4 jours, on change d'année, etc. On n'y échappe pas. Ouais, il y a une régularité. C'est de l'ordre de l'écoulement du temps.
Et
ouais. Si ce n'est que parfois il y a des ambiguïtés sur la date du départ, parce qu'il y a la nuit du doute. Ensuite, que dire au sujet du chronos ? Bonjour. C'est que il y a un discours sur le temps qui s'écoule, qu'on va tout simplement appeler la chronologie. Le logos, c'est le verbe ou la parole, et chronos, c'est donc le temps. Et donc, la chronologie, c'est précisément le temps dans cette succession qui semble inéluctable. Et effectivement, il y a cette idée d'un temps qui s'écoulerait. En hébreu, le deuxième mot qui est grisé, donc comme ça, celui de droite à gauche, c'est celui qui est à gauche du premier, et, donc où et c'est et un temps, et en grec, dans le grec de la Septante, c'était traduit par kairos. Ouais. Non, non, première ligne, toujours le premier verset. Kairos, c'est l'instant, c'est quelque chose qui surgit, c'est quelque chose qui advient, c'est l'idée d'une rupture. Et voyez, on a tout de suite collé dans le texte hébreu l'idée de la continuité et l'idée de la discontinuité et de la rupture. On pourrait dire que Kairos, c'est le temps qui cesse d'être neutre. C'est un temps orienté. Et on va voir avec le mot qui suit que c'est un temps auquel on va justement donner du sens. C'est ce que vous disiez, Paulette. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est le chronos, c'est le zeman, mais on peut réagir et on peut faire quelque chose de ce qui nous arrive. Et puis vous voyez qu'il y a dans le texte hébreu un troisième type de mot qui est grisé, par exemple au verset 11 ou au verset 14. Ça se prononce olam. En grec, ça serait aion. C'est l'éternité, en fait. Ad olam, c'est pour toujours. Le olam, c'est pour l'éternité, en quelque sorte. Et quand on dit au siècle des siècles, amen, c'est aion. C'est-à-dire que c'est l'idée, effectivement, qu'il n'y a pas de fin. S'il n'y a pas de fin, ein sof, ça veut dire que c'est non fini, que c'est infini. On va y revenir. Je continue quand même sur olam, cette idée d'éternité. Parce que l'étymologie de ce mot laisse entendre que ça viendrait du verbe alam. Alam, ça veut dire cacher. Et en fait, Marc Fessler, qui a produit un commentaire sur le Colette il n'y a pas très très longtemps chez Labor et Fides, et d'ailleurs je m'en inspire pas mal pour aujourd'hui parce que sur cette section c'est vraiment intéressant et lisible. C'est pour vous inciter à le lire aussi. Il parle du temps caché, l'éternité comme le temps caché, sous-entendu caché en Dieu. Mais du coup, quelque chose qui est à découvrir et dont on peut se saisir. Mais le temps caché, c'est aussi le temps qui est au-delà de l'imaginer. Ça veut dire que c'est le temps qui sort précisément de la fatalité, du « c'est écrit », du « c'est évident », du « forcément », du « après la pluie, le beau temps », justement. Le temps caché, c'est en fait le temps qui ne nous est pas accessible d'ores et déjà. Donc ça échappe au saisissement, à la mainmise, à la maîtrise. Et donc, vous voyez, ce n'est pas de l'ordre de cette mécanique implacable d'un temps qui dévorerait tout de façon régulière comme un gros estomac. C'est l'idée qu'il y a dans le temps quelque chose qui peut être de l'ordre de la transcendance. Et il me semble que ces trois temps donnent une sorte de polarité. On a d'un côté le chronos, le zeman, qui est le temps déterminé, voire déterministe. On a à l'opposé le temps indéterminé, olam, qui est insaisissable et qui est de l'ordre du divin. Et puis au milieu, il y a le kairos, le et, qui est peut-être le pont qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire c'est ce moment où nous sommes capables d'injecter du divin dans le très naturel, et donc de pouvoir porter le naturel à hauteur du divin, de le faire ressurgir, de le ressusciter, de ressusciter le temps. Et donc de temporaliser en fait le temps. Car en disant ce que je vous dis, j'ai l'impression de donner un peu de la vie au temps. Or, le temps, on l'avait vu la fois dernière, ça reste quand même de la fiction, du concept, de la convention, quelque chose que l'on met en place pour pouvoir créer une communion, une harmonie. Autre chose qui est important, c'est, donc j'en suis encore au verset 1, c'est le cinquième mot. Donc, pour tout, un temps fixé, et un temps pour tout, et alors en général c'est traduit par toute chose, et ensuite Tarat HaShamayim, sous les cieux ou sous le ciel. Et Refetz, c'est là qu'il y a un problème idéologique chez Segond à mon avis. Parce que Refetz, il le traduit par chose, en fait c'est désir. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout désir. Et vous voyez, ça donne quand même une autre couleur au texte, parce que ça dit justement qu'il y a de la place pour nous. Nous pouvons injecter quelque chose. Alors, le désir n'y est pas, il est traduit par Louis II par « chose ». Et si vous prenez le texte hébreu, c'est le sixième mot, si on ne compte pas les traits d'union. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième mot, pardon. Refetz. Il y a 7 occurrences de ce mot dans Coëlette. Et ça commençait d'ailleurs comme ça au chapitre 3, verset 1, comme vous le voyez. Et on va la voir ensuite au verset 17 et puis ainsi de suite. C'est un terme qui va revenir assez souvent. C'est l'idée selon laquelle, en fait, il y a un lien entre le temps et le désir. C'est-à-dire que chaque chose a un temps fixé. Il y a une sorte de temps de la nature. Et on peut se dire une gestation, c'est 9 mois, par exemple. Mais il y a aussi un temps pour chaque désir. Ça signifie pour chaque choix qu'un homme fait sous les cieux. Sous les cieux, c'est-à-dire en portant sa vie non pas selon le temps de la nature, mais selon le temps de Dieu, qui est un temps qui échappe à cet aspect inexorable de nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dès ce premier verset, le Coëlette suggère qu'il y a de la liberté dans le temps. Et qu'en fait, il y a ici de la place pour une éthique. L'éthique, c'est le fait que nous choisissons notre action dans le monde. Il y a même un risque éthique. On peut risquer quelque chose. Et du coup, l'éthique, vous voyez, ce serait un peu cette dialectique entre le temps fixé, qui est de l'ordre du déterminisme, et puis le temps du désir, qui est celui de la liberté. Il y aurait comme, en quelque sorte, un dialogue, si on voulait métaphoriser, ce serait un dialogue nuptial, quasiment, entre le temps déterminé et le désir.
Ce que l'on en fait.
Et ce que l'on en fait. La question, c'est, est-ce que l'on reste dans le chronos, une vie figée, un temps fixé, ou est-ce qu'on s'engage dans le vertige du désir ? Au fond, c'est vertigineux, le désir. Vous imaginez, vous mettez quelqu'un fin du mois, donc qui vient de recevoir sa paye, rue de Rivoli, au moment des soldes, il y a une sorte de vertige qui s'empare de cette personne. La question, c'est, aurais-je assez de temps pendant le temps des soldes pour faire les soldes ?
Aurais-je assez d'argent ?
Et assez d'argent, c'est une autre contingence. Bien. Cela signifie que l'éthique, c'est ce qui va faire le lien entre ce temps ininterrompu et ce temps caché. C'est une façon de dire que le temps n'est plus quelque chose qui s'écoulerait comme un flux ininterrompu. Et d'un autre côté, parce qu'il y a du désir et qu'il y a du sens, ce n'est pas non plus une constellation de petits moments qui n'auraient aucun sens. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait la possibilité de donner du sens à cette mosaïque. Finalement, la capacité de l'être humain, c'est de donner du sens à quelque chose qui semble être fragmentaire. Ou au contraire, de pouvoir redonner un peu de jeu à quelque chose qui semble extrêmement déterminé au départ. Alors ensuite, vous avez le poème qui vous a semblé peut-être un peu monotone ou en tout cas litanique. Alors, si je vous pose une question trop facile, vous allez avoir la réponse. Et si je ne vous la pose pas facilement, vous n'allez pas avoir la réponse. Alors, la question serait, est-ce que ce texte, est-ce que cette succession de couples de verbes vous a fait penser à quelque chose dans la Bible ? Y a-t-il une intertextualité que vous auriez repérée ? Oui, ça ressemble un peu à cette succession. Hein. Est-ce que l'on pourrait se dire qu'il y a un autre marqueur dans le texte qui nous fait dire qu'il peut y avoir un lien entre le premier récit de la création et ce texte-ci ? C'est-à-dire qu'il y a la succession des jours, effectivement. Oui, Stéphane ?
Les verbes sont des actions, donc c'est comme la création, c'est une succession d'actions.
Oui, On pourrait dire que la différence, c'est que là, c'est plus simplement parler, c'est aussi agir.
Oui. Hein?
Mais est-ce qu'il y a... alors, effectivement, il y a cette répétition de verbes, mais est-ce qu'il y a un autre élément qui pourrait nous faire dire, oui, il y a un lien, au moins textuel, avec Genèse 1 alors, en fait, c'est un peu après dans le texte que cela se voit, mais ce n'est pas forcément jusqu'au verset 8 inclus.
C'est une description.
Là-dedans, qu'est-ce qui vous fait penser à Genèse 1
qu'en fait, il y a une constance, il y a une création, et qu'en fait, c'est un outil, il n'y a rien à y ajouter.
Donc il y a effectivement le fait que Dieu agit, hein, et ça finissait comme ça, il y avait l'œuvre de Dieu à ça.
Ça devient, ouais. Et en même temps, ça durera.
Il y a un autre élément aussi qui peut être remarqué. C'est le fait qu'on a, notamment au verset 12, mais la traduction ne le restitue pas très bien, le même mot « tov hein, » qui ponctue chaque jour. Dieu vit que cela était « tov ». On avait vu ça la fois dernière. Souvent, c'est traduit par « bon ». Voilà. Et là, c'est traduit par « bonheur ». Vous voyez comme il est compliqué, ce mot « tov ». Et au fond, on pourrait dire « j'ai reconnu qu'il n'y a de vivable hein, ». Je vous avais dit que « tov » pouvait être traduit par « vivable » la dernière fois. Genèse 1, c'est pour rendre le monde vivable. Et bien là, ce qui est vivable, et puis on verra, c'est de se réjouir et de donner du tov, de donner de la vie à la vie. Ouais. De donner une qualité de vie à leur vie. Donc, il y a aussi ce constat de quelque chose qui est tov. Vous voyez, ça peut reprendre comme ça Genèse 1. Il y a encore autre chose qui peut... Il y a un autre texte qui peut être sous-entendu plus spécifiquement, les versets 2 et 3. Versets 2 et 3, en fait, c'est une histoire biblique. On ne reprend que les verbes.
Ah, bah, c'est... Bah, oui, on pourrait dire, bah, moi, je le vois, c'est la crucifixion et la résurrection.
Alors ça, c'est dans une lecture très christocentrée. Qu'est-ce qui vous ferait dire que ce serait la crucifixion dans ces versets 2 et 3 ? Ouais. Un temps pour planter les clous et un temps pour les arracher, c'est ça. D'accord, effectivement. C'est juste.
C'est
horrible.
Il y a guérir. Ma lecture de la résurrection, c'est une guérison.
Très bien. Ah, une sorte de réanimation. D'accord. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Le abattre après la guérison, du coup, ça serait l'histoire des apôtres, alors. Avec Étienne qui se fait lapider, c'est ça ? J'essaie de continuer votre intertextualité.
Non.
Alors, ça peut être opératoire. Il y a quand même un risque, ça serait de considérer que ce texte a été écrit en pensant à ce qui allait arriver à Jésus de Nazareth. C'est pas que ce soit pas possible, parce que ça, je ne sais pas si c'est possible ou non, mais ce texte commence par le fait qu'il y a de la liberté dans notre histoire. Or, s'il écrit le scénario à l'avance, c'est comme s'il annulait ce principe de liberté, ce principe d'indétermination. Et donc, considérer que la mort, enfin que la vie de Jésus était écrite dans ses moindres étapes, c'est en tous les cas nier l'idée de ce texte-là. Oui. Il y a un autre texte où il est question de naître, mourir, planter, arracher, tuer, guérir, abattre, bâtir. C'est Abel et Caïn.
Ah oui.
En fait, c'est l'histoire d'Abel et Caïn que vous avez probablement ici. Avec vraiment des correspondances au niveau des verbes. Et Abel, en fait, on l'a dans Coëlette pas mal, parce que la vanité, c'est Abel. Et vous savez, vanité des vanités, en fait, c'est Abel, c'est la buée. Ouais. Et donc, Abel, en fait, ouvre le livre de Coëlette. C'est chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités, dit Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Vous vous rendez compte que là, il est un peu répété ce mot « Ebel »,« Abel ». Et d'ailleurs, on retrouvera ensuite la question « Quel avantage pour l'homme en son travail, pour le travail qu'il fait sous le soleil ?» Donc, l'idée que nous aurions là peut-être le récit d'Abel et Caïn, donc il y a effectivement la naissance, une naissance de Caïn qui d'ailleurs est très spécifique. Hein. Relisez la naissance de Caïn. Ève dit qu'elle a eu un fils avec Dieu. Oui. Alors vous allez me dire peut-être que c'est la préfiguration de la naissance de Jésus avec Marie. Mais en tous les cas, il y a déjà là l'idée qu'on peut donner la vie non pas simplement sous l'angle du biologique, mais aussi sous l'angle du spirituel. C'est-à-dire qu'on peut donner des naissances non seulement disons à un être, mais de surcroît à un être humain. On a donc le verbe harag qui est utilisé dans les deux cas quand il s'agit de tuer Abel ou ici. Et puis, vous savez, c'est l'histoire de Caïn, c'est l'histoire d'un planteur en fait. C'est le conflit entre sédentaire et nomade. C'est le conflit entre celui qui offre les prémices de ses récoltes et celui qui offre les prémices de son cheptel. Et Caïn, lui, est planteur. Et que fait-il? En fait, il arrache son frère à la terre. Ouais. Et après, on dit qu'en fait, il va bâtir une ville. On dit que sa descendance bâtit une ville. Et il y a un temps, effectivement, pour bâtir. Caïn, oui. On dit cela de Caïn. C'est Genèse 4, verset 17. Ville. Bien sûr qu'elle existe, puisqu'elle est dans le texte. À partir du moment où... Ça ne veut pas dire qu'elle est, mais en tous les cas, elle existe, puisque vous en parlez. C'est intéressant parce que souvent, on a le sentiment que l'histoire d'Abel et Caïn, c'est l'histoire d'un destin inéluctable. C'est comme si ça ne pouvait pas se passer autrement que tel que cela s'est passé. Et ce texte biblique récupère ce récit de meurtre fratricide en disant que justement, il y a de la place pour envisager autre chose que ce destin inéluctable. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à répéter ce scénario-là. Pourquoi ? Parce que on est dans un contexte large du bassin méditerranéen, c'est-à-dire que le livre de Coëlette ne résonne pas simplement en circuit fermé, il pense par rapport aux autres cultures, aux autres civilisations. Or, il y a une idée selon laquelle toute civilisation doit nécessairement se fonder sur le meurtre. C'est le principe du bouc émissaire chez René Girard. Mais de façon générale, il suffit de prendre quelques récits de fondation de villes importantes, la plus connue certainement étant Rome, pour se dire qu'il faut qu'il y ait un meurtre originel. Et ce texte dit on peut envisager les choses autrement. Il n'y a pas de fatalité. On peut fonder quelque chose, non pas sur un meurtre, mais par exemple sur l'amour. Ça, c'est de l'ordre de quelque chose d'envisageable. Ensuite, les versets 4-5. C'est une autre histoire biblique. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a ici peut-être une allusion à la destruction du temple et à l'exil. Le verbe pleurer, c'est celui qui est utilisé dans le livre des Lamentations, au chapitre 1, versets 2 et 16. Ouais, et c'est ce texte qui est lu lors de la commémoration de la destruction du temple. Et à contrario, rire, c'est par exemple ce que l'on trouve dans le psaume 126 au verset 2, c'est le rire dans ce psaume qui célèbre la reconstruction du temple. Donc, il est possible que soit convoqué ici cet épisode de la destruction du temple et de l'exil. Par exemple, bon, il y a le temps des lamentations, ça c'est effectivement les lamentations de Jérémie. Le temps pour danser, ça peut évoquer notamment David qui danse autour de l'arche, au moment où l'arche va rejoindre le campement. Donc évidemment, David n'est pas au temps de la reconstruction du temple et du retour d'exil, mais il y a cette idée que la danse, c'est ce qui célèbre le chemin de l'arche d'alliance qui est le trône de Dieu, qui est l'objet central du temple. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rassembler deux moments. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a une sorte d'opposition et de dualité, mais ce qui est intéressant, c'est que sont reliés deux temps très distincts, comme s'il y avait en fait une sorte de rupture dans ce qu'on appellerait le continuum en termes de temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre ensemble deux événements qui n'ont rien à faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va créer une continuité là où il y a de la discontinuité, alors que jusque-là, on avait créé de la discontinuité là où il y avait de la continuité. Alors j'imagine bien qu'en vous disant cela, je suis un peu en train de vous perdre. Mais maintenant, je vais vous le dire plus tranquillement sous l'angle de la narration. Il s'agit d'enseigner le fait que quand nous sommes en train de vivre quelque chose de douloureux, nous pouvons déjà réinjecter un avenir qui, lui, est sous l'angle de la promesse de quelque chose d'heureux à vivre. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le disiez, comme vous le laissez entendre, une autre façon d'habiter l'histoire. C'est l'espérance, voilà. Je suis content que ce soit vous qui disiez le mot et pas moi. Ça m'aurait donné le sentiment de vous forcer. L'espérance, c'est le fait de réinjecter une promesse d'un autre ordre du monde possible dans notre contemporanéité, dans notre présent. Donc, il s'agit d'injecter du rire dans les pleurs, parce qu'on sait que le temps du deuil, par exemple, n'est pas le dernier moment de notre histoire. Il y a quand même un temps pour pleurer. Il ne s'agit pas de supprimer le temps du pleur, mais il s'agit de le relier à quelque chose d'autre qui est à vivre. C'est le sens d'ailleurs des services funèbres, c'est de dire que il n'y a pas de bonne raison pour s'épuiser dans le temps du deuil, qu'une vie est à nouveau possible, ce qui n'estompe en rien la douleur du deuil, ce qui n'estompe en rien le scandale de la mort, mais c'est une façon de dire que ce n'est pas le tout de ce qui nous reste à vivre.
Dans l'opposition, il y a une continuité.
On crée une nouvelle continuité. C'est ce que je disais tout au début, le fait de donner du sens, c'est en fait de pouvoir relier des éléments qui pourraient sembler fragmentaires et qui nous déchireraient de l'intérieur. Et comme si notre identité était éparpillée façon puzzle et que ça ne fasse pas sens.
Vous donnez le sens que la vie continue, de toute manière.
Oui, et en fait, donner le sens pour que la vie continue. C'est-à-dire qu'on peut être producteur d'un sens qui oriente vers la vie, ça va être tout à fait la fin de ce passage. Dans cette fameuse prédication à laquelle vous avez fait référence, là, que j'ai faite sur ce texte il y a quelque temps, je rappelais ce que Kierkegaard disait. Peut-être que je ne l'ai pas cité dans ma prédication, je me rattrape maintenant. Il disait, le problème, c'est que bien souvent, les gens mettent des « ou » là où il faudrait mettre des « et ». Hein ? Il dit « ou, ou ». Et en fait, c'est « et ». Fromage et dessert. Pas chocolat blanc. Non, c'est pas chocolat ou pas de chocolat. C'est chocolat blanc et chocolat noir et chocolat aux noisettes et chocolat au caramel. Et je vous en passe, c'est des meilleurs. Et ici, on est exactement dans cet ordre d'idées. Et je rajoutais dans ma prédication qu'en fait, c'est comme si Dieu, C'est ce qui nous offrait une palette de possibles, comme le peintre a une palette, et il choisit dans les couleurs ce qu'il va utiliser pour sa toile, et en y apportant les nuances qu'il voudra, en faisant éventuellement des mélanges et des associations. Donc ce n'est pas choisir ceci ou cela, c'est avoir le choix entre tout.
Mais entre où mettons ? Vous avez du fromage ou dessert ?
Non, on n'a pas. Fromage et dessert.
Ah oui, parce qu'on n'a pas les deux en général.
Eh bien, avec l'éternel, on a fromage et dessert, et on a la poire après le fromage.
Non, attends, il y avait les deux.
Non, mais qu'est-ce que c'est ? La grâce surabonde là où le « ou » abonde.
Ouais.
Et le titre de cette méditation, si je peux me permettre, était « L'éternel nous rend libre d'agir ».
C'est exactement cela. J'avais déjà raison à l'époque. C'est pas beau, ça.
Ça se pose en termes de raison. Mais...
J'avais vrai.
C'est pas, mais on peut
reprendre. Oui.
C'est pas pareil.
Ouais, ouais. Et alors, je crois que ce que je disais dans cette prédication, c'est que vous voyez comme les termes peuvent être plus neutres que ce qu'on imagine. Parce qu'on disait, on a des couples qui sont antithétiques. Jeter des pierres, ramasser des pierres. On sent bien que jeter des pierres, c'est pas fabuleux. Mais une chose est de jeter des pierres sur une personne, une autre est de jeter des pierres sur des djinns, comme on le fait lors du pèlerinage à la Mecque, une autre est de... jeter des pierres dans un trou pour faire un barrage ou pour combler un fossé ou pour faire un pont. C'est vrai que déchirer sa veste, c'est malheureux, mais d'un autre côté, Martin Luther n'a pas déchiré sa bulle d'excommunication, il l'a brûlée, mais s'il l'avait déchirée, ça aurait été sympathique, quoi. Il y avait un geste intéressant. Donc, vous voyez, ces verbes en soi sont plus neutres que ce qu'on imagine.
Donner la moitié à quelqu'un qui a froid.
Et ben voilà, mais dans ce cas-là, on peut carrément donner tout le manteau, recommander un certain Jésus. Au sujet de lancer des pierres, là aussi, c'est Marc Fessler qui nous rend attentif à ce que dit ce commentaire rabbinique, le Midrash Rabbah. Le temps de lancer des pierres, c'est lorsque ta femme est en état de pureté rituelle. Et c'est un temps d'amasser des pierres lorsque ta femme est en état d'impureté rituelle. Allez savoir pourquoi. En tous les cas, ça fait partie des prescriptions qui existent. Le temps pour lancer les pierres et le temps pour ramasser les pierres. Il faut bien qu'il y ait un peu d'indéterminé dans nos explications. Si je me permets quand même de vous faire cette citation, c'est parce que la suite traduit bien ce temps de l'intime. C'est-à-dire que le verset suivant, avec l'histoire d'embrasser ou de s'éloigner des embrassements, certains parlent de l'étreinte, un temps pour étreindre, un temps pour s'éloigner de l'étreinte, nous conduisent dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Et donc, c'est une façon de dire qu'on n'est pas simplement dans les grands récits mythiques, on est aussi dans l'histoire qui s'incarne dans ce qu'il y a de plus personnel chez nous. Et Coëlette n'est pas très loin du Cantique des Cantiques dans la Bible, ça fait partie des mêmes rouleaux, les Megillotes. Et c'est le livre du Cantique des Cantiques est intéressant parce qu'il montre comment une vie nuptiale peut être justement le moment où s'incarne quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, et la grâce, en fait, c'est ce qui traverse tout ce texte. La grâce, c'est ce qui vient mettre un petit peu de liberté dans des rouages qui nous semblent surdéterminés. D'ailleurs, la suite, les versets 6 et 7, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, pourrait peut-être faire penser un peu au Cantique des Cantiques, parce que c'est un peu ce qui arrive aux deux amoureux des Cantiques des Cantiques. Ils se cherchent, ils se trouvent, ils se retrouvent, mais ils ne se trouvent pas. Il n'y a jamais de rencontre, mais ils sont toujours l'un allé vers l'autre. Et en fait, ça ne finit pas parce que ça ne commence pas. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a une séduction qui n'en finit pas. Il y a un temps caché, en fait. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'éternité parce que ça ne se consomme pas. Alors, il ne s'agit pas de valoriser un amour qui serait platonique, mais c'est l'idée selon laquelle on n'en finit jamais d'aller à la rencontre de l'autre. Et qu'une relation amoureuse est vraiment amoureuse quand elle est dans l'ordre du nuptial et pas du conjugal, dirait Paul Ricoeur, c'est-à-dire lorsqu'elle est dans l'ordre du charme et au fond de cette quête perpétuelle. Hein. Chercher et c'est en même temps perdre. Vous voyez, chercher, ça peut donner l'impression de perdre son temps, par exemple. Penser, ça peut donner l'impression de perdre son temps. Il y en a beaucoup qui, souvent, traitent quelqu'un d'intello parce qu'ils ont l'impression qu'il perd son temps à penser. Donc, à chercher.
Chercher, c'est creuser aussi.
Chercher, ça peut être creuser, oui. Mais c'est une façon ensuite, pour après, de ne garder que ce qui est bon et nécessaire et de jeter ce qui est à rejeter, ce qui est annexe. Vous voyez, une sorte de conséquence. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, c'est du coup un temps pour garder l'évidence, un temps pour sélectionner ce qui sera vraiment utile, et puis un temps pour jeter, un temps pour se débarrasser de ce qui est plutôt un encombrant. Ça, c'est en fait le temps du discernement, c'est la sagesse. Déchirer et coudre... C'était bizarre, cette histoire. Et en fait, là encore, Marc Fessler rapporte cela à Jérémie avec le rouleau de Jérémie qui va être détruit. Et en fait, il y a cette idée peut-être qu'un rouleau qui est déchiré peut être recousu. C'est-à-dire, faisons une actualisation peut-être un peu excessive, mais... Admettons que quelqu'un vous déchire devant vous votre extrait d'acte de naissance, eh bien, sur le plan symbolique en tout cas, il est possible de reconstituer votre identité. Si on était dans les deux cas du registre symbolique, je ne sais pas moi, des parents qui déchirent votre jeunesse, qui empêchent que vous ayez une jeunesse, ça n'obère rien de votre avenir. Enfin, bien sûr que ça ne vous met pas dans de bonnes dispositions, mais il y a encore de la place pour que ça s'arrange. Il y a de la place pour que ça, qu'il y ait de la suture et que du coup vous soyez restaurés, que nous soyons restaurés dans notre identité. La référence à Jérémie, vous pouvez la voir au chapitre 36, verset 23, si vous voulez prolonger cela un peu. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Ça, c'est un verset qu'il faudrait écrire dans bien des lieux. Un temps pour se taire. Vous vous souvenez, il y a un soir et un matin. On commence par ne rien faire et ensuite on fait quelque chose dans le récit de la création. Moi, je dis, s'il y avait un corollaire, ça serait mieux vaut se taire et passer pour un imbécile que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Essayons de faire encore un lien intertextuel. Je propose à Stéphane de nous dire dans le Nouveau Testament, à quoi ça pourrait nous faire penser le Nouveau Testament, dans les évangiles. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? En rapport avec la vie de Jésus. Cette fois, ce n'est pas la crucifixion, c'est plutôt de l'autre côté que ça se passe. C'est l'expérience de Zacharie. Le père de Jean-Baptiste. Vous savez, qui est plongé dans un mutisme. Et le texte dit qu'au fond, c'est le moment de l'intériorité, où il va pouvoir aller chercher dans sa mémoire familiale, traditionnelle, les éléments nécessaires pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Et après, il pourra dire le nom de son fils. Donc c'est une réflexion, c'est une méditation, c'est le temps de l'intériorité. Si je fais ce lien avec l'Évangile, c'est pour nous donner une clé de lecture. Ce n'est pas pour dire voilà ce qui doit arriver à Zacharie. C'est pour nous aider à comprendre ce texte. Ce texte, c'est peut-être justement le temps où on retrouve les éléments importants de notre histoire pour advenir au monde et du coup pouvoir parler. Paul Ricoeur le dit très bien, ça. où il l'écrit, au sens où nous avons besoin de nous réapproprier notre propre narration pour être vraiment présent au monde. Ce qui explique qu'on dise toujours, on dit souvent qu'il faut donner des repères, des valeurs à nos enfants, etc. C'est pas tant ça que de leur raconter l'histoire de la famille. Et ce faisant, dire quels ont été les choix familiaux. Parce que c'est ça qui est structurant. C'est de dire que, ici ou là, des gens ont pu faire des choix, exercer leur liberté, ont été libres d'agir. Et ont peut-être fait des mauvais choix. Dans des familles, certains ont choisi la milice plutôt que les FFI. Certains ont fini les cheveux très très courts et d'autres ont reçu une croix de Lorraine. Mais il y a eu des choix qui ont été faits et qui n'ont pas été dictés simplement par la nécessité du moment. Vous voyez ? Ça permet de sortir à la fois de la nécessité et du hasard. Il y a un moment donné où on a voulu, on a pu, par conviction, faire valoir quelque chose qui était de l'ordre du bien dont il va être question après. Notre compréhension du bien universel a pu s'imposer à une sorte d'histoire qui nous était, elle aussi, imposée. Vous voyez, lorsque les lycéens parisiens décident de défiler sur les Champs-Élysées le 11 novembre 40, un, rien ne les y oblige, deux, tout les en empêche, et ils le font quand même. Ce faisant, ils disent quelque chose de leur capacité à rester des personnes debout et libres. Verset 8, c'est la conclusion de ce passage. En fait, tout conduit à cela. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est un peu le retour à Caïn et Abel, ce couple social originel. Il y a aimer et haïr, opposé à tuer et guérir, et opposé à détruire et bâtir. L'amour peut, enfin, il y a aussi, comment dire, il y a une sorte de spirale infernale. L'amour peut se retourner en haine parfois. La haine peut conduire à la guerre. Et n'empêche que la paix, le shalom, reste l'horizon. C'est le sens divin du véritable désir. C'est-à-dire que dès le début, on dit, vous pouvez faire valoir votre désir, mais pas n'importe quel désir. Si vous pouvez faire valoir n'importe quel désir, mais on vous recommande de faire valoir un désir qui serait orienté vers le shalom, vers la paix. Au bout de tout cela, votre horizon, ce pourrait être cela. Le shalom, c'est le désir sous les cieux. Donc, c'est le shalom, c'est le désir de l'au-delà, en fait. Si on veut continuer à exister, donc si on veut qu'il y ait encore de l'au-delà, c'est le shalom qu'il faut viser. Si on fait une lecture structurale de ce texte. Alors, ensuite, on retrouve cette idée-là que je vous avais lue au tout début de Colette. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? Bon, c'est à quoi bon travailler, hein ? À quoi bon se casser la binette ?
Il
n'y
a pas de temps du travail.
Il n'y a pas de temps du travail. Pas 35 heures, là. Ouais.
On a le plaisir de faire quelque chose.
Oui, sauf que le travail, ça peut être considéré comme une torture. Mais le plaisir, c'est en fait ce qui va être injecté dans cette aventure, mais ça ne va pas de soi. Ce n'est pas naturel. Tout de suite, je vous rends attentif au verset 10. La traduction dit « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme ». En hébreu, ce n'est pas le verbe « soumettre », c'est le verbe « natan »,« donner ». Ce qui est passablement différent. On n'est pas dans l'ordre de la soumission. Et c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'implacable qui s'impose au traducteur, là où l'auteur a essayé de mettre du jeu et de la liberté. Hein, le verset 10, en fait, c'est
« Donne aux fils de
l'homme ». J'ai vu, le travail que donne Dieu au fils d'Adam pour que ça travaille en eux, quoi. Et donc, le don est quand même autre chose que la soumission. Le fait que ce soit de l'ordre du don montre qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extériorité. Vous voyez, quand on a des textes comme ça, ça ne dit pas tant quelque chose sur Dieu, sa vie, son œuvre, que quelque chose sur l'homme et ce qui lui appartient en propre ou ce qu'il reçoit. Et quand on dit ici que l'œuvre, en fait c'est de l'œuvre dont il s'agit, et pas simplement du boulot, quoi. Que l'œuvre c'est ce que Dieu donne au Fils de l'homme, c'est une façon de dire que lorsque nous voulons que notre travail se métamorphose en œuvre, cela ne dépend pas que de nous, mais cela dépend du coup de ce qu'on va appeler le divin, et donc ça pourrait être de ce qui participe au tov pour la création. Ça veut dire que ça participe au bien commun, pour reprendre un terme politique par exemple. L'extériorité, du coup, ici, disqualifie ce qui sera une philosophie plus tard, c'est construit à la force du poignet. Ça, c'est une illusion. Ceux qui se disent « je ne dois rien à personne, je me suis construit à la force du poignet », si c'est le cas, c'est que leur vie est réduite à pas grand-chose. Mais même... Oui, oui, bien sûr, mais... c'était aux États-Unis, il y avait eu un débat politico-économique à ce sujet, notamment avec quelques libéraux, et puis ils s'étaient fait entendre, mais attendez, pour en être arrivé là, vous avez quand même profité du système éducatif, du système médical, vous avez bénéficié des moyens de communication, des moyens de transport, et ça, en fait, ça vous était un peu offert, en fait. Mais plus généralement, notre conscience, si elle n'est construite que par nous-mêmes, alors elle est très minorée par rapport à ce qu'elle serait si elle était construite en collaboration avec le regard des autres. C'est en fait là la perspective des textes bibliques, et puis après de philosophies comme celle de Martin Buber, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, le personnalisme aussi, c'est que l'autre me permet non seulement de m'épanouir, mais de pouvoir accéder à un état de vie bien supérieur à ce que je pourrais produire par moi-même. C'est le principe de l'intelligence collective, pour dire cela de façon non religieuse. Et donc, cette extériorité, on la retrouve aussi au verset 11. Donc, il a fait toute chose belle, disons, c'est pas encore le tov là, dans son temps, même, ou encore, il a mis, donc, il a donné le olam dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne le olam, c'est-à-dire l'idée d'éternité, dans le cœur de l'homme. Le cœur étant le lieu de la raison, c'est un peu la conscience, c'est le lieu de la décision aussi. C'est ce qui permet l'action, le cœur, dans la Bible. Donc vous voyez, c'est cette idée que notre conscience est forgée par autrui. Et qu'elle n'est pas qu'une construction personnelle. C'est pour cela que le relativisme ne devrait pas être condamné comme cela par principe. Parce que le relativisme, c'est le fait d'être en relation avec l'autre, et c'est cette relation qui est constitutive de ma capacité à me positionner pleinement dans la création. Et là, le fait de mettre l'idée de l'éternité, on pourrait le traduire dans des termes non religieux en disant « ça nous donne la conscience de l'universel ». il pourrait certainement y avoir une relation entre l'universel et l'éternel. L'éternel, dans les textes bibliques, ce n'est pas l'immortalité. C'est effectivement ce qui n'a pas de fin, mais pas au sens de la mort biologique. C'est infini au sens où un bien absolu est inaltérable. Il faut plutôt penser l'éternité en termes de qualité plutôt qu'en termes de durée. Et c'est là qu'est le piège du temps dans la perspective biblique. Le kairos, le et, c'est un surgissement. Et donc, vous voyez, ce n'est pas une histoire de temps. Si on prend une sorte de diagramme avec le temps sur l'abscisse et puis la qualité sur l'ordonnée, eh bien, il y a un pic comme ça. Et donc, l'éternité, elle est sur la qualité et pas sur la durée. Elle est en ordonnée et pas en abscisse. Et Ricoeur parlerait de grains d'éternité, de parcelles d'éternité. La théologie du process parlerait de data, c'est-à-dire de données en langage informatique qui reconfigureraient l'ensemble du monde. Et c'est comme en mathématiques avec les nombres premiers. Un nombre premier, il n'est pas sécable, donc il reste tel quel. Eh bien, un kairos, c'est ça. C'est quelque chose qui est inaltérable. On le retrouve toujours. C'est ce qui permet, du coup, de faire les codes secrets. D'où le temps caché. Non, là, je tire un petit peu. J'exagère quand même. Mais ceci dit, le nombre premier, c'est ce qu'on utilise pour faire les codes secrets. La cryptographie. Dans les quelques minutes qui nous restent, vous parlez de la joie. C'est le verset 13. Au fond, qu'est-ce qui distingue une vie réussie d'une vie qui ne le serait pas vraiment? Eh bien, c'est une vie réussie, c'est quand un homme mange et boit et qu'il se réjouit du tov qui est au milieu de son travail. Donc, c'est ce que vous disiez. C'est quand le travail devient une œuvre. Donc, c'est quand on est dans le registre de la vocation. C'est là un don de Dieu. C'est ce que Dieu donne à lui.
Et on a des moments d'éternité dans la vie courante.
Et ben en fait, c'est là que l'éternité peut s'éprouver.
Voilà.
Tout ce texte.
C'est une question de qualité, on ouais. a des moments d'éternité.
Oui, des fois, ça peut être des grands moments aussi. Mais...
Oui, il faut mieux que c'est des grands moments.
C'est le texte de Colette, d'ailleurs, est tout orienté là-dessus. C'est-à-dire que la félicité n'est pas à rechercher après la mort, elle est à rechercher dès à présent. Ouais. Là encore, Ricoeur avait, je ne sais plus si c'était un étonnement ou une sentence, c'était de dire mais ce que nous enseigne le christianisme, c'est qu'il y a une vie avant la mort. Et ça, c'est la résurrection en fait.
Qui est de se mettre debout.
Qui est de se mettre debout, mais qui est de se réveiller aussi. Comme si on était dans une sorte de profond sommeil. Et qu'est-ce qui nous sort de la torpeur? Eh bien, c'est justement l'autre qui vient vers nous, qu'on l'appelle Ève ou autrement, en fait. Et alors, la joie, pourquoi est-ce que la joie revient quand même assez souvent, et même dans la bouche de Jésus, que votre joie soit parfaite? C'est parce que la joie devient la métaphore de notre relation réussie à la création. C'est-à-dire, c'est lorsque nous sommes vraiment libres au sein de la création et que du coup, nous pouvons faire valoir notre éthique. Quand nous sommes libres d'agir, lorsque nous sommes libres de nous déterminer, nous sommes joyeux. La joie brille dans nos yeux. Et là encore, la joie, elle relève du don de Dieu. Ça veut dire que il ne peut pas y avoir de joie égoïste, sinon c'est une joie méchante. La joie, elle est nécessairement, c'est trop, vous l'enlevez. La joie est existentiellement provoquée par l'autre. Donc, pourquoi est-ce que c'est tellement mieux de voir un coucher de soleil sur un bord de plage avec quelqu'un? Parce que l'autre donne de l'intensité à ce que je suis en train de vivre. Et au fond, il le fait exister, ce quelque chose. Vous voyez, il lui donne une perspective, il donne de l'ampleur. Et puis, il y a une communion qui se crée. Et en fait, s'il n'est vraiment pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que c'est vrai, en fait. Et que c'est dans cette relation à l'autre que je deviens vraiment quelqu'un. C'est le fameux « tu » qui me permet d'être « je » de Martin Buber. Et alors, je finis avec cette dernière phrase qui est extrêmement bizarre. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » On a l'impression que « Ein Rodesh Tarat Hashemesh », donc rien de neuf sous le soleil, et que c'est qu'un éternel recommencement. C'est pour ça qu'on a l'impression que Colette, c'est extrêmement pessimiste, qu'au fond, on est condamné à une répétition du scénario de vie, etc. Mais tout dans la Torah de Moïse, c'est comme ça qu'il aurait fallu traduire. Ce qui a été, enfin ce qui est, a été. On est d'accord. C'est dans le texte. Et ce qui est pour être a été. D'accord. Mais la fin du verset. Mais Dieu ramène. Eh bien, c'est pas ce qui est passé. C'est ce qui est poursuivi. Et ce que Dieu ramène, ce sont les persécutés. Et d'ailleurs, si vous prenez la traduction de la Bible de Jérusalem, ou la Chouraki que j'ai là sous les yeux, ce qui était est déjà, ce qui doit être était déjà, Elohim cherche le persécuté. Parce que, et en fait, il n'y a à peu près aucune ambiguïté sur le fait que la bonne traduction, c'est persécuté. La Septante, le grec, donc la Septante, c'est avant Jésus, hein, donc ça remonte haut dans la tradition du texte. C'est le verbe dioko, donc ce sont les diokomenon, et ce sont les persécutés.
Alors, c'est ce qui est poursuivi.
Ceux qui sont poursuivis, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont suivis,
c'est
harcelés.
C'est pas ceux qu'on poursuit nous-mêmes.
C'est ceux qui ont l'impression que le chronos est sur leur dos, comme d'autres n'osent plus rien faire parce qu'ils ont l'impression que Barack Obama avec ses jumelles NSA est derrière eux en permanence. Voyez, et du coup, ils se sentent plus libres de quoi que ce soit. Et bien là, en fait, c'est l'idée que quelqu'un qui aurait l'impression d'être dans une logique de la répétition éternelle peut être récupéré, racheté par le divin. Le divin, c'est ce qui nous sauve du même. C'est ce qui nous sauve du déjà et encore, c'est ce qui nous sauve de la perpétuité. C'est ce qui réinjecte du possible, pour le dire avec la théologie du process.
Mais dans poursuivi, on pourrait...
Il n'y a pas d'espoir. Et si, justement, parce que c'est Dieu qui ramène ceux qui sont persécutés par ce chronos qui mange. Voyez,
c'est-à-dire on que Dieu... voir ce qui est poursuivi, ça peut être aussi ce que l'on essaie de poursuivre soi-même.
Oui, il peut y avoir aussi une sorte d'obsession.
Non, mais pas forcément d'obsession. On va au bout d'une idée, d'acte et tout, et peut-être que ça tourne justement, Dieu ramène ce que l'on voudrait.
Ou ce qui serait bon, ou ce qui serait vivable.
Ce qui serait bon. Donc c'est... là, c'est une question.
Il ramène les persécutés.
Il n'y a pas d'espoir dans son
truc. C'est... Mais c'est ça qui est le plus important. C'est parce que c'est l'homme qui est sauvé, et pas des choses, des idées. On s'en fiche des idées, des institutions. Ce qui est important, c'est que l'homme soit sauvé de son destin.
Ceux qui sont poursuivis.
Oui. Et on peut dire persécutés, mais poursuivis, en tout cas, c'est bien harcelé ou ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment une bonne traduction. Comment dire ? Du coup, il y a aussi une sagesse, c'est de dire que méfiez-vous quand vous êtes dans un processus de création, vous ne créez pas ex nihilo. Dieu lui-même part du tohu bohu. Il part de quelque chose, mais il réorganise. Donc, là, dans ce texte, il n'y a pas cette idée selon laquelle on partirait de zéro. Vous voyez ? C'est comme si on faisait table rase de tout ce qui avait été vécu avant. Il s'agit bien de dire qu'il y a de la place pour pouvoir donner sa patte au moment. Il y a de la place pour, en tout cas, ne pas subir. Le persécuté, c'est celui qui est poursuivi, c'est celui qui est subi. On peut ne pas subir, en tous les cas, en permanence. L'éternité, c'est ça. Comme c'est l'heure, voilà. Si vous avez des questions, eh bien, de toute façon, vous pouvez les poser par Internet et puis je vous répondrai personnellement. De toute façon, on n'a pas épuisé le texte, hein, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes frustré, c'est normal. La frustration crée le désir, et le désir, vous avez vu, est divin. Il participe d'un bon rapport au temps. Voilà. La fois prochaine, on travaillera sur la question de la relativité du temps, hein, évidemment, avec non pas Einstein, mais Josué au chapitre 10, vers les versets 6 et suivants. C'est l'épisode où le soleil est arrêté. Est-il chapitre 10 du livre de Josué? Est-ce qu'on peut arrêter le temps? Est-ce qu'on peut suspendre le vol du temps plus facilement que le vol de l'OTAN?